Vous écoutez On lit pour vous.
Plaies de pression. Des lueurs d'espoir à l'horizon, un texte de Walter Zelaya, directeur général de Mémo Québec. Aujourd'hui, nous vous parlons à nouveau des plaies de pression. Et ce ne sera certainement pas la dernière fois. La différence, cette fois-ci, c'est que, pour la première fois, nous constatons que des grands pans du réseau de la santé prennent au sérieux les impacts et les difficultés que les plaies de pression représentent pour les personnes lésées médulaires. Depuis mon arrivée à Mémo Québec, j'ai eu souvent l'occasion de voir comment les gens souffraient en silence, comment ils étaient mis de côté quand ils souffraient de plaies, à quel point ils sont écartés de la société, de leur vie de famille et de toute possibilité de participation sociale pendant des semaines, des mois, voire des années. Cette souffrance est de plus en plus inacceptable, surtout quand on voit qu'elle est la résultante de négligence des établissements de santé ou de la part de professionnels. Surtout aussi quand on ne donne pas l'importance nécessaire au traitement et à la prévention de ces plaies de pression. Au cours des années, nous avons effectué des interventions et apporté des témoignages de membres aux prises avec des plaies de pression dans toutes les instances et les comités gouvernementaux. Force est de constater que nous ne parvenions pas à avoir l'impact suffisant pour changer la donne de manière significative dans l'ensemble du Québec. Après le décès tragique de Normand Meunier, nous avons décidé qu'il fallait agir de manière plus intense et mieux structurée. Nous avons développé un plan d'action au sein de notre organisme. J'en profite d'ailleurs pour remercier l'équipe de Défense des droits et particulièrement Ariane Gauthier-Tremblay qui a grandement participé à l'organisation de cette campagne. Nous voulons viser toutes les instances gouvernementales. Pour cela, nous avons fait appel aux membres qui subissent ces situations pour qu'ils s'expriment sur leur réalité et leur ressenti au quotidien. Nous avons aussi contacté nos alliés, ainsi que les médias. Nous avons envoyé une pétition à l'Assemblée nationale et fait parvenir aux députés des témoignages rédigés par les personnes qui subissent ces plaies et leurs impacts. Nous sommes fiers de pouvoir dire aujourd'hui que, dans le réseau de la santé, les professionnels ont entendu parler des impacts des plaies de pression dans la vie des personnes lésées médulaires. Par ce numéro, nous voulons rendre compte de l'énergie, des efforts déployés par ceux et celles qui se sont impliqués pour cette cause. Nous voulons aussi rendre compte des résultats tangibles que nous observons déjà. Ce numéro, même s'il parle de quelque chose de douloureux et de délicat, est aussi porteur d'espoir. L'espoir que plus jamais, dans le réseau de la santé, on ne néglige les soins et les traitements apportés aux personnes vivant avec une lésion médulaire. C'est un petit pas à l'intérieur du réseau de la santé, mais pour les personnes vivant avec des plaies de pression, cela change toute la donne. Je vous invite à parcourir ce numéro en vous disant fièrement que, pour nos membres, le désespoir peut désormais laisser la place à l'espoir.
Vivre avec la loi sur les Indiens, un texte de Marie-Paul Rouleau, paru le 4 avril 2026 dans Le Devoir. Pour comprendre les effets de la loi sur les Indiens, Le Devoir s'est rendu à Ouachat Mac Maniutenam, une communauté inoue de la côte nord comptant environ 3 700 habitants. Relocalisée de gré ou de force à deux reprises, la réserve est aujourd'hui divisée en deux. Ouachat, la vieille réserve, créée en 1906 et enclavée dans cette île, et Maniutenam, créée 16 km plus à l'est en 1949. Le pensionnat pour autochtones de Maniutenam, ouvert de 1952 à 1971, a aussi laissé un souvenir amer dans la communauté. Le Devoir donne la parole à des Innus qui témoignent de leur histoire et de leur vie. Naomi Fontaine et l'identité blessée. Jeune autrice Innu de 38 ans, elle habite à Ouachat. Ses romans décrivent le quotidien de sa communauté. Elle a beaucoup réfléchi à l'une des grandes conséquences de la loi sur les Indiens, les blessures identitaires. Mon grand-père Alexandre Michel. Pour nous, la loi sur les Indiens est vraiment rentrée en fonction au tournant des années 1950. Mon grand-père est né dans la forêt. Il a vécu tout ça. La sédentarisation forcée, les pensionnats, fait que c'est pas si loin pour nous. C'est une affaire de 70 ans, peut-être. Ses premières années, il était autonome. Il connaissait son territoire. Il était chasseur de meurtres et vendait des peaux. Il était aussi bûcheron. Puis il arrive ici. On l'enferme et on lui dit que c'est plus possible de retourner dans la forêt. Il s'est ramassé avec 19 enfants. Il y en a 15 qui ont survécu. Aujourd'hui, quand on parle de mon grand-père, on le voit comme un géant. Mais dans ce temps-là, on était moins que rien. C'était comme ça que la société québécoise nous voyait, nous, les Premières Nations. Il avait une trentaine d'années. Il était père, démuni, pas capable de faire vivre sa famille avec ce qu'il avait toujours fait, avec ce qu'il a pensé qu'il allait toujours faire. Il se fait menacer, il peut pas chasser. Il y a quelque chose à l'intérieur de lui, certainement, qui a été brisé. Il a commencé à travailler, il a été charpentier. Il parlait seulement Innu Aimun, fait qu'il a dit à ses filles, « Maintenant, dans la maison, vous allez parler en français, puis vous allez aller à l'école. » Il a eu un doute à un moment donné. Je pense que c'est ça, être colonisé, en fait. C'est quand tu doutes de la valeur de ta culture. Puis là, tu te dis, « Bon, peut-être que c'est celle-là qu'il faut que je prenne, la culture des Blancs. » Il n'était pas heureux, il n'était pas bien avec lui-même. Quand il a eu 50-60 ans, il est retourné dans la forêt. C'était là qu'il a commencé à transmettre ses savoirs. Ma mère, Lise Michel. Ma mère a grandi en parlant français avec ses sœurs et avec sa mère sans qu'on lui transmette rien. Ni l'histoire, ni le territoire, ni tout ce que ses parents savaient. Elle disait, « Moi, je regardais tout le temps les Blancs. Tout ce qu'ils étaient, comment ils s'habillaient, comment ils parlaient, la couleur de leur peau, leur maison, leur regard. Tout avait l'air tellement mieux. Puis je regardais ma maison, je regardais mes rues, comment c'était pauvre. Elle a vraiment grandi dans la honte. Ça a été pour ma mère un grand combat dans sa vie. Je pense que ça l'est encore aujourd'hui. Je pense qu'on guérit très difficilement de cette honte-là. Moi, Naomi Fontaine, je suis née ici, mais j'ai grandi à Québec. Est-ce que j'avais honte d'être Innu? Non. Mais est-ce que j'en étais fier? Pas du tout. Un prof à l'université, un vieux bonhomme français, était venu enseigner à l'université Laval en création littéraire. Il m'a dit, « T'es Innu, toi? » Je dis oui. Il dit, « Puis, les réserves, ça existe? » Je lui dis, « Oui, ça existe. Je suis né dans une réserve. » Puis il me dit, « Naomi, c'est important ce que t'écris. » Pour la première fois, j'entendais quelque chose de positif par rapport à mon identité, par rapport à qui j'étais. C'est là que j'ai commencé à écrire. Je suis capable de voir le positif dans ce que la culture blanche québécoise m'a apporté. Mais je ne mets plus en doute que ma culture, pour moi, c'est la plus importante, que je dois bâtir ma vie dessus. On est allé au bout d'être colonisé. On a vraiment essayé de vivre comme des Blancs. On n'y arrive pas. Ça nous détache, ça nous détruit. Revenir m'installer ici dans ma communauté, c'est aussi un geste de décolonisation, un mouvement que je pensais jamais faire. Si ça veut dire vivre dans une réserve, eh bien, je l'accepte. Autant je disais que j'allais jamais élever mes enfants ici, aujourd'hui, je veux qu'ils voient les Innus, qu'ils soient entourés d'Innus. Je veux qu'ils entendent la langue. Ken Rock et la loi au quotidien. L'avocat Innu, Ken Rock, directeur de cabinet pour le conseil de bande de Washatmak Maniutenam, est un homme pragmatique. Vivre dans une réserve en 2026, c'est toujours vivre sous la loi sur les Indiens. Sa Majesté. Tout découle de la loi sur les Indiens. Encore aujourd'hui, c'est ce qui définit qui est un Indien. C'est ce qui définit une réserve indienne. C'est ce qui définit les pouvoirs des conseils de bande, l'autonomie gouvernementale qui est exercée aujourd'hui par les communautés. Les terres des Indiens sont détenues par le roi au bénéfice des Indiens. So what? Qu'est-ce que ça me fout que ce soit le roi Charles qui est propriétaire du terrain? C'est clair qu'il n'y a pas un habitant de cette île qui va s'établir sur un terrain sans s'assurer d'en être propriétaire, puis de faire reconnaître ce droit-là, de l'inscrire dans un registre qui dit « Regarde, c'est mon terrain à moi, je me construis là-dessus ». Mais c'est pas comme ça que ça se passe chez nous. La propriété et les emprunts. La loi sur les Indiens a été pendant très longtemps un frein incroyable au développement économique dans les communautés parce que les gens ne pouvaient pas emprunter. Parce que la loi sur les Indiens fait que les biens dans une réserve ne peuvent pas être saisis, j'ai besoin d'une résolution du Conseil pour garantir auprès de l'institution financière que si je ne paye pas, le Conseil s'en occupe. À partir de ce moment-là, je n'ai pas de droit de propriété au même titre que le citoyen ici à cette île, à côté. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui va me sortir de mon terrain, de ma maison à moi? N'importe quel citoyen à cette île qui a une maison peut emprunter de l'argent dans une institution financière. Il va l'hypothéquer et dire « Regarde, ma maison vaut 500 000 $ J'ai besoin de 100 000 $ pour développer une entreprise. » Mais un Indien arrive à la banque et se fait dire « Désolé, t'as pas de possession. Moi, j'ai une estie de belle maison, mais ça vaut rien, parce que l'institution financière ne pourra jamais la saisir si je ne paye pas. » La question des taxes. Les gens pensent qu'on paye pas de taxes. Je pars à Québec en fin de semaine. Et je vais en payer des taxes. Je ne paie pas d'impôts parce que je travaille dans la réserve. Mais les Indiens qui ne travaillent pas dans la réserve payent de l'impôt. Mais ça, encore, les gens ne sont pas au courant de ça. Virginie, Mathieu et les Blancs. Virginie Michel est une artisane. Elle n'a pas de relation étroite avec les Kakoussettes, prononcé Kokoussèche. Le mot utilisé ici pour « allochtone » et qui signifie « pêcheur ». Au contraire, son cousin Mathieu McKenzie, musicien du groupe Matan, a joué avec des artistes de toutes les cultures, dont feu Serge Fiori, dans 11 nations pour une chanson. La méfiance de Virginie. Ma méfiance, elle est toujours là. Je ne peux pas concevoir qu'elle va disparaître avant ma mort. Mon père disait « On travaille pour la compagnie minière Iron Horn et j'ai des bons amis. Mais aussitôt qu'on parle de mes territoires, ils deviennent racistes. Le message qu'il nous a lancé, c'est « Faites attention à l'allochtone, parce qu'à un moment donné, il va te trahir. » Vérité et réconciliation pour Mathieu. Avec tout ce que l'on vit actuellement ces dernières années avec les allochtones au Québec, Joyce Echaquan, tout ça, on est dans un mouvement, je pense. La vérité commence à sortir. Tant les Autochtones que les Québécois, on est prêts, je pense, à entendre les vraies choses, finalement. Toute la question du pensionnat, ça fait partie aussi de la loi sur les Indiens. Il y en avait un, ici, à Malieu-Ténam, mais nos parents n'ont jamais vraiment parlé de ça. Je viens d'apprendre toutes ces vérités-là, depuis une vingtaine d'années que je commence, moi aussi, à questionner mon père des fois. « Ils t'ont-tu fait mal ?» Aussi à ma mère, à ma tante, puis ma grand-mère, quand elle était en territoire de chasse et que l'hélicoptère atterrissait dans leur camp. Quand ils voyaient l'hélicoptère cacher les fusils, c'était la panique totale. Toutes ces oppressions-là, tout ça est quand même lié à ce document-là. Il frappe du doigt sur une copie de l'acte des sauvages. Comprends-tu? C'est tout ça quand je dis la vérité. Je regarde les jeunes qui portent leur capuchon comme ça. Il met sa tête entre ses épaules. Ils sont gênés parce qu'on est quand même minoritaire dans la société. Tu comprends? Je parle inou au Saint-Hubert, partout. Ça ne me dérange pas et je parle fort parce que je suis fier. Mais des fois, nos enfants, l'autre génération, disent « Ich, parle pas ». Il faut les aider à se réapproprier notre culture, nos langues, nos traditions. Et quand on va réussir à leur raconter l'histoire qu'ils ne connaissent pas non plus, puis dire « Nous autres, on était là-bas. Ça, c'était notre territoire. On chassait là. On passait l'année là. » Il faut leur faire comprendre d'où ils viennent pour allumer ce qui est un petit peu éteint dans eux, dans moi, dans tous ces gens-là. C'était « Vivre avec la loi sur les Indiens », un texte de Marie-Paul Rouleau, paru le 4 avril 2026 dans Le Devoir.
Dans les coulisses de la crise des pistaches contaminées. Un texte de Alexis Bouliane et Philomène Sénéchal, paru le 8 avril 2026 sur ici.radio-canada.ca. Jusqu'au mois de juillet 2025, tout allait rondement pour Sadek Habibi, de l'entreprise d'importation et de distribution de noix Green Farm. C'est alors qu'est arrivé un appel d'un de ses clients. Des pistaches provenant de son entrepôt ont été identifiées par l'Agence canadienne d'inspection des aliments, ACIA, comme étant la source d'une infection à la salmonelle. Nous avons décidé de rappeler ces lots spécifiques afin de nous assurer que ces produits ne se trouvent plus sur le marché et que personne ne les utilise, raconte M. Habibi. Malgré cette mesure, 90% des pistaches des lots visés par le rappel n'ont pu être récupérées, selon l'importateur. Elles avaient déjà été introduites dans la chaîne d'approvisionnement au fil des mois, transformées notamment en vue de répondre à l'engouement pour le chocolat Dubaï, une confiserie populaire qui comporte de la crème de pistache. L'Agence d'inspection canadienne a émis les premiers appels en juillet 2025, mais souligne dans ses communications que les premiers cas de salmonellose datent du mois de mars précédent. Entre la période d'importation, la distribution et l'éclosion, il se passe des mois, et c'est durant ces mois-là qu'on perd le cours d'où est rendue la pistache, explique la consultante en sécurité alimentaire José Fiorella, qui travaille avec Green Farm depuis plusieurs années. Les premiers cas de salmonellose attribuables aux pistaches contaminées en provenance d'Iran sont apparus en mars 2025. Green Farm n'est pas le seul importateur touché par le rappel. En l'espace de quelques mois, des dizaines d'entreprises ont retiré des produits contaminés de leurs inventaires. Depuis le début de la crise, près de 400 types de produits à la pistache ont été visés par des rappels, dont plus de la moitié en décembre et en janvier de cette année. Et ce nombre pourrait encore augmenter. La quantité de rappels, elle est énorme. Je n'avais jamais vu ça en 38 ans de carrière. Un robinet qui continue à couler. De l'avis du docteur Sylvain Kessy, professeur retraité en salubrité alimentaire et ex-scientifique en chef pour le développement des modèles d'analyse du risque de l'ACIA, le niveau de gravité de cette crise sanitaire est hors du commun. C'est extraordinaire comme diversité de contamination, puis comme niveau de contamination, explique-t-il. Devant l'ampleur de la crise, l'ACIA a annoncé le 27 septembre 2025 qu'elle interdirait temporairement l'importation de pistaches en provenance d'Iran. Or, l'épicerie a appris que, malgré l'urgence de la situation et l'interdiction temporaire, le robinet ne s'est pas complètement fermé pour freiner l'arrivée de pistaches potentiellement contaminées. Selon les données commerciales de Statistique Canada, des chargements de pistaches iraniennes d'une valeur de plus de 3 millions de dollars sont entrés au pays malgré la mise en œuvre des restrictions à l'importation, dont 2,5 millions de dollars en octobre seulement. Cet afflux soudain de pistaches iraniennes représente le double de la moyenne mensuelle des importations de cet aliment en 2025. Questionnée à ce sujet, l'Agence fédérale justifie l'entrée de ces pistaches au pays en spécifiant que les cargaisons ayant quitté l'Iran avant le 27 septembre 2025 devaient faire l'objet d'un échantillonnage et d'un dépistage. Les commandes qui étaient déjà parties en mer avant l'interdiction ont donc été testées pour la présence de salmonelle, puis remises en circulation lorsque les échantillons ont été déclarés négatifs. Le docteur Kessy souligne que d'un point de vue scientifique, les échantillonnages ont été faits dans le respect des protocoles de gestion des risques. Il aurait toutefois été possible de refuser systématiquement ces lots simplement en raison du caractère délicat de la situation, affirme Sylvain Kessy. D'une part, on interdit les pistaches, mais d'autre part, on permet d'en faire entrer un certain nombre, tout en disant aux gens « n'en consommez pas ». Dit-il. Ça peut fragiliser la confiance des gens. Donc, du point de vue communication du risque, ce n'est pas l'idée du siècle. Pour lui, les Canadiens sont en droit de réclamer une meilleure surveillance de ce qui entre au pays. Ce que ça illustre, cet épisode-là, c'est la faiblesse du système canadien du contrôle des importations en ce qui a trait à la salubrité des aliments au Canada. C'est le parfait exemple. L'ACIA a finalement serré la vis début décembre en interdisant toute importation de pistaches d'Iran, même celles déjà en transit. Cependant, le nombre de cas de salmonellose a continué de grimper au Canada. Le 15 janvier dernier, l'ACIA révélait que 166 personnes sont tombées malades entre le début mars et le début décembre 2025. Puis, le 13 mars, 12 nouveaux cas se sont ajoutés au total.
Ce rappel représente une perte de dizaines de milliers de dollars pour la laiterie Chagnon. Des centaines d'autres entreprises canadiennes ont vécu le même cauchemar ou le même casse-tête logistique. La laiterie Chagnon fait partie des victimes de la crise. 16 000 pots de crème glacée aux pistaches ont été rappelés au début de 2026. Et l'histoire n'est toujours pas terminée. De l'avis d'Anne-Marie Lowe, épidémiologiste à l'Agence de la santé publique du Canada, les rappels pourraient continuer. Elle recommande d'ailleurs de ne consommer aucune pistache provenant d'Iran. Et si on ne connaît pas la provenance des pistaches, il faudrait s'abstenir, dit-elle. Il est toutefois difficile de s'assurer de la provenance des ingrédients d'un aliment transformé. Aucune loi n'oblige un fabricant de crème glacée, par exemple, à indiquer sur son emballage d'où proviennent les ingrédients qui composent le produit. Une telle exigence serait d'ailleurs difficile à mettre en œuvre, souligne Nathan Kayser. Le problème en écrivant la provenance, c'est que si, tout à coup, un ingrédient de cette provenance-là, il n'y en a plus, tu fais quoi? Demande-t-il. Changer l'emballage, ça coûte très cher. Devant l'absence de pistaches iraniennes, appréciées pour leur qualité gustative et visuelle, beaucoup de transformateurs s'approvisionnent maintenant en Californie. Toutefois, au-delà de cette nouvelle source d'approvisionnement, la crise sanitaire actuelle a provoqué des réflexions dans l'industrie. On a des nouvelles procédures en place. On va tester nous-mêmes les pistaches avant de faire la production, explique Nathan Kayser. Des questions demeurent. Quelle est la source précise de la contamination? Et pourquoi le Canada est-il pratiquement le seul pays affecté par cette crise? La CIA, qui a répondu à nos questions par courriel, mais a refusé nos demandes d'entrevue, affirme que l'enquête est toujours en cours. Avec les informations de Caroline Lacroix. C'était « Dans les coulisses de la crise des pistaches contaminées », un texte de Alexis Bouliane et Philomène Sénéchal, paru le 8 avril 2026 sur ici.radio-canada.ca.